La raison pour laquelle donc, on se trouve devant le CSA aujourd'hui, il y a trois radios qui ont fait un communiqué. Donc il y avait Fréquence Paris Pluriel, Aligre FM et Radio Libertaire. Il y a d'autres radios qui sont ici aujourd'hui. Il y a Alternative FM, Radio Campus Paris et Andy FM. Donc on se trouve devant le CSA puisqu'aujourd'hui, 1er octobre, c'est la date de clôture de l'appel à candidature pour la radio numérique. C'est le dernier jour pour rendre des dossiers en radio numérique. Le CSA, il est l'organisateur de cet appel à candidature. C'est lui qui gère le dépôt des candidatures. Et il est également le garant du pluralisme audiovisuel en France. C'est pour ces deux raisons-là qu'on se trouve ici aujourd'hui, sachant qu'il y a un autre acteur également, qui est le ministère de la Communication, qui, lui, doit débloquer les financements pour les radios associatives. Enfin, c'est lui qui gère l'aspect financement du dossier. Qu'on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Donc là, les radios qui sont présentes aujourd'hui ont déposé un dossier de candidature. Elles l'ont déposé aux trois quarts vierges, puisque pour les radios associatives non commerciales, c'est pas possible de remplir les principales parties de ce dossier, qui sont la partie technique et la partie financière. Peut-être je vais passer après la parole à Aligre, et à d'autres personnes de FPP. Il est important d'insister sur le fait qu'on a fait ce dépôt des candidatures aujourd'hui parce que c'est important de se rendre visible, d'insister sur le fait que les radios associatives non commerciales ne doivent pas être oubliées, ne peuvent pas être oubliées dans un appel à candidature. Là, il a été organisé d'une manière qui ne nous permet pas d'y répondre correctement, qui nous oblige en fait à fournir des dossiers quasiment blancs qui seront remplis ultérieurement une fois que le ministère de la Communication aura débloqué des financements, etc. Il y a des radios dans la coordination Radio Libre en lutte qui ont souhaité ne pas déposer de dossier. On respecte entièrement ce choix. Nous, on est une coordination, donc il n'y a pas de mot d'ordre général. Notre objectif, c'est de défendre l'ensemble des radios associatives non commerciales, de défendre la présence des radios libres dans le paysage audiovisuel. C'est quelque chose qui a été acquis en 1981 après une longue lutte, grâce aux radios qui sont ici ou aux héritières de ce mouvement-là. Voilà, on ne va pas lâcher le morceau sur cet aspect-là, que les radios associatives non commerciales continuent à être présentes, soit en analogique, soit en numérique.
Bon, sur Aligre, ça fait 27 ans qu'on se bat pour la liberté des ondes. On l'a ouvert aussi aux grands réseaux commerciaux. Ce passage au numérique ne nous semble pas, premièrement, une grande innovation technologique. Il n'est pas encore certain que ça soit une meilleure qualité d'écoute pour nos auditeurs. Il y aura de l'image en plus, de l'image publicitaire, bien évidemment, hein, parce que ça ne se dit pas, mais c'est le plan qui est derrière. Et on est contraint de s'associer à ce passage, à cette mesure qui nous oblige à passer au numérique, parce que autrement, on risquerait de ne pas y être. Et ça aurait été, encore une fois, une mesure pour faire deux catégories, c'est-à-dire peut-être un ghetto des radios analogiques et après les radios qui sont en numérique, et petit à petit nous éliminer. Il faut dire aussi, ne pas oublier qu'actuellement, un récepteur numérique coûte à peu près 250 €, que ça baissera peut-être à 150 ou à 100 €. Ça veut dire aussi qu'il y a une spéculation sur ce qu'on appelle les produits bruns, c'est-à-dire qu'on va développer l'achat de récepteurs de radio pour relancer le marché et les bénéfices de cette industrie-là. Dans un contexte de réduction du pouvoir d'achat, on peut aussi s'attendre à ce que les utilisateurs, les auditeurs, les gens qui nous écoutent et les auditeurs que nous sommes aussi, ne se précipitent pas pour acheter des postes en numérique. C'est un peu un contre-courant de la tendance actuelle. Mais on est obligé, on est contraint de passer au numérique, donc on dépose un dossier. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas simplement, on ne peut pas alerter simplement sur le numérique, mais sur le contexte général. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation globale des médias en France qui est très, très inquiétante, dans la mesure où, avec l'absence de recettes publicitaires, la suppression des recettes publicitaires pour la télévision publique, le fonds de soutien, c'est-à-dire FSER, sur lequel est prélevé donc. Sont prélevées la somme qui permet de subventionner les radios locales, associatives, eh bien, ce fonds de soutien risque d'être amputé. Et à ce propos, nous, on nourrit les plus vives inquiétudes, bien qu'on ait pour le moment des messages réconfortants de la part des autorités de tutelle, mais on reste sur nos gardes, et je pense qu'il y aura une bataille à mener, puisque les radios libres, de toute façon, si on est encore existant aujourd'hui, c'est le fruit simplement des luttes. C'est pas simplement parce qu'on les a dit, oh, vous êtes gentils, on vous laisse exister. C'est parce qu'on représente quelque chose d'important, parce qu'on a des forts soutiens dans la population, parce qu'on n'a rien à vendre, hein. On n'est pas des commerces, on est des radios qui ont un intérêt, qui travaillent pour l'intérêt public, pour le service public, en fait, finalement, et un intérêt général, et pas d'intérêt particulier, d'intérêt financier. On est le relais des associations, on est le relais de tout un tas de mouvements, de groupes, d'individus qui défendent à la fois des acquis sociaux, qui défendent la culture, qui essayent de faire que cette société ne se lobotomise pas comme elle le fait. On a encore ça. Donc c'est pour ça que la mobilisation n'est pas simplement sur le numérique, elle est dans un contexte global, c'est-à-dire de la liberté d'expression en France, de la liberté des médias, et on est toujours sur la corde raide parce que, effectivement, le nerf de la guerre, celui avec lequel on nous étrangle aussi, c'est les finances. Et le numérique, c'est une manière de nous étrangler. Donc nous, on demande, c'est pas nous qui avons changé la règle, que ceux qui changent la règle en assument les conséquences.
À une radio, on ne sait pas où elle est, la radio qui reçoit les émissions, mais avec la terrestre, est-ce qu'on pourra localiser les appareils?
Ah, alors, Alex,
Techniquement, c'est toujours quelque chose de possible avec le numérique. Maintenant, ce n'est pas le sujet aujourd'hui.
Par contre, un sujet que ça peut développer, c'est... Un sujet que ça peut développer, c'est que... La raison pour laquelle aussi on se mobilise sur ce passage à la radio numérique, c'est Philippe a parlé du coût des récepteurs. Ça fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne vont pas pouvoir acheter les récepteurs. On pense aussi à certaines catégories de personnes qui peuvent écouter la radio, par exemple dans des prisons, par exemple dans des quartiers populaires, dans des endroits où c'est difficile d'avoir du matériel pour écouter la radio, etc., qui là vont avoir des difficultés supplémentaires. Donc nous, on se bat également sur le fait qu'on ne veut pas, nous, se scinder de nos auditeurs qui sont nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas, dans les radios associatives non commerciales, il n'y a pas de distinction entre, d'un côté, des journalistes professionnels, de l'autre, des auditeurs qui seraient passifs. C'est quelque chose qui se mêle entièrement. Et donc nous, on craint, sur quelque chose comme ça, de renouvellement forcé du matériel, et du matériel plus cher, qu'il y ait une partie des personnes qui ne puissent simplement plus écouter la radio comme ça peut se faire aujourd'hui. On peut même bidouiller un poste de radio, c'est faisable. La radio numérique, non, ce sera plus faisable du tout.
Juste, je voulais intervenir, rappeler un petit peu que on peut considérer qu'il y a quand même trois étapes. Il y a eu avant la libération de la FM, à l'époque du monopole, donc les radios pirates. Ensuite, après 81 et depuis que le CSA existe, tout ce qui concerne les ex pirates, c'est-à-dire un secteur non marchand, les radios associatives concernent environ 500 radios en France. Donc ces radios-là, contrairement aux radios commerciales, elles sont des associations et elles passent peu ou pas de publicité. Nous, on n'en passe pas, par exemple, pour Fréquence Paris Pluriel, c'est un choix éditorial. Maintenant, ça a fait aussi qu'il y a ce système dont parlait Aligre, qui est le fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui permet de reverser sous forme de subvention aux associatives une taxation de la publicité des radios commerciales. Nous, on trouve que c'est une bonne idée. Alors, la logique veut que si la pub dans le public baisse, le fonds de soutien baisse. Simplement, nous, c'est tout simple. Si vous comparez la création de la radio numérique à la TNT, on dit, on crée un nouveau média et l'analogique va disparaître en 2011. Ils nous disent, on fait la même chose en radio. Sauf qu'il y a une chose qui est oubliée, notamment dans le rapport Jazzy sur les médias numériques, c'est qu'en radio, il y a une spécificité, c'est cette existence d'un secteur non marchand réellement. C'est-à-dire ces 500 radios autorisées, reconnues par la loi, qui fonctionnaient avec du bénévolat, et qui, où les animateurs font ça par passion. Et donc ce secteur-là, qui est déjà soutenu par l'État, si on nous dit on crée la radio numérique et on supprime la FM, c'est à l'État d'assumer la totalité de ces coûts-là. Donc après, à eux de voir, de réfléchir, ça peut être un financement sous diverses formes, mais a priori, il faudrait au moins que la diffusion numérique nous soit gracieuse jusqu'à l'extinction de la FM, s'ils nous parlent d'extinction de la FM. Nous, ce qu'on voulait dire par « on entend conserver nos fréquences, conserver notre existence », c'est-à-dire permettre à tous ces, sans se tromper, milliers de personnes, voire dizaines de milliers de personnes en France qui sont animateurs de radio associative, de pouvoir continuer à s'exprimer sous cette forme-là, avec un financement qui ne dépend pas seulement des collectivités territoriales pour un poste aussi important que la diffusion et le double coût pendant cette période où ça serait en même temps la FM, en même temps le numérique. Donc clairement, pour qu'on passe en numérique, il faut qu'on nous finance au moins cette gratuité de la diffusion numérique, au moins jusqu'à l'extinction de la FM. Sinon, pourquoi on lâcherait la FM de facto comme ça? Non. Donc, a priori, il faut que les pouvoirs publics, dont on a bien entendu, qui reprennent des bonnes intentions par rapport au fait de financer la numérisation, par rapport au fait d'aider, y compris les radios associatives, il faut que les pouvoirs publics passent aux actes et nous créent un fonds qui couvre au moins totalement ces frais-là, ce qui permettrait aux radios d'avoir un laps de temps pour passer du coût d'une diffusion analogique au coût de la diffusion numérique, à l'extinction de la FM et là d'assumer ces coûts-là éventuellement à ce moment-là. Il faut réfléchir. Mais voilà, on est là aujourd'hui parce que c'est le jour des appels à candidature pour dire que s'il y a d'autres appels à candidature par le fait que... Je reprends ça. Si financièrement on ne peut pas assumer le fait d'avoir réellement déposé une candidature aujourd'hui en expliquant pourquoi les parties finances et les parties techniques ne peuvent pas être complétées désormais, d'ores et déjà. Ensuite, il faudra que dans les prochains appels à candidature, on puisse avoir notre place. Enfin, il faut que voilà, ce problème soit pris en compte par le CSA dans la façon de mener les appels à candidature et par le ministère. Et on entend du CSA qui disent au ministère aussi que la garantie du pluralisme dont il a la mission, ça passe par ce financement de la part du ministère. Voilà, grosso modo.
Voilà, et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est qu'une première étape, c'est-à-dire que nous allons continuer à mener une lutte, à mobiliser, à la fois sur ces questions du numérique, et en étant très vigilant pour qu'aucune radio ne soit exclue pour des raisons financière de son travail de mission sociale et culturelle qui est celle des radios locales associatives et que d'un autre côté on va continuer aussi à se battre sur les questions de pluralité, sur les questions de démocratie au niveau des médias aujourd'hui. Et je pense que là on a aussi un front beaucoup plus large avec un grand nombre de journalistes et notamment avec les opérateurs des services publics, des médias publics, puisque eux aussi sont concernés et eux aussi risquent de subir le même discrédit que nous risquons de subir, c'est-à-dire l'étouffement financier. Voilà, donc ça c'est très important. Donc c'est une première étape de mobilisation. Avec nos auditeurs aussi, puisque on proteste aussi vivement contre le fait que les postes de radio ne seront plus accessibles à tous aujourd'hui. Et moi, j'imagine un berger dans ses montagnes pour qui la radio est un lien essentiel au monde et qui devra maintenant acheter à 250 ou 150 euros le poste qui le relie au monde pendant sa période dans les alpages. Donc, un exemple parmi tant d'autres. Et les personnes âgées et les prisonniers qui n'ont pas les moyens de s'acheter des... voilà. Donc, première étape et bientôt de nouveaux rendez-vous.
Moi j'avais juste une question, c'est qu'à l'heure actuelle on voit la radio qui passe en numérique, mais ceux qui n'ont pas le financement, est-ce qu'il n'y a pas un esprit que les radios dits d'État rachètent des radios associatives, comme on a vu quelques-unes qui ont déjà été rachetées par certaines radios associatives dans certaines régions?
Non, légalement, c'est encore une lutte hein, ça, qui a permis ça. Parce que l'histoire des radios associatives et des radios libres, c'est toujours l'histoire des luttes, comme je disais tout à l'heure. On est arrivé à ne plus acheter des radios, des fréquences à... Bon, il y a quand même eu des magouilles et des tripatouillages qui ont permis quand même de faciliter certaines opérations, mais les fréquences A ne sont pas rachetables. Bon, légalement, mais la vigilance est quand même de mise. Hein.
Comment est-ce qu'on peut comprendre cette précipitation ou cette obligation française? C'est une exception française. Quelle est la situation dans les pays voisins? C'est incomparable. Est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce qui explique cette précipitation, cette obligation absolument le 1er octobre 2008?
Alors le sentiment est qu'on est dans l'ordre du velléitaire, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que... les opérateurs publics qui ont mis en place cette règle du numérique, enfin ce passage au numérique, n'y sont pas prêts eux aussi, dans un premier plan. Dans un deuxième temps, il faut aussi reconnaître que c'est une norme européenne, pas la norme, parce que nous on a la norme de la Corée du Sud. Hein. Bon, ça c'est encore au niveau technique, il y aurait un roman à écrire. Mais donc c'est une norme européenne. Et alors, pour être dans le cadre européen, donc il faut accélérer les choses. Voilà. C'est-à-dire, encore une fois, une bureaucratie aveugle, où l'humain a un peu de place, où il est important d'ouvrir des créneaux et ouvrir aussi la possibilité d'exploitation commerciale donc pour des opérateurs commerciaux. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que la radio, les radios, ben, c'est pas simplement une galerie marchande. Et que c'est autre chose, et on a une autre conception du travail radiophonique et du travail de journaliste.
Excusez-moi, aujourd'hui vous vous adressez aux autorités, mais sur quelles forces comptez-vous pour appuyer vos demandes?
Alors les forces qui nous soutiennent sont déjà nos auditeurs, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont de plus en plus. On n'a pas appelé aujourd'hui, on n'a pas appelé les auditeurs. Enfin, je sais que pour Aligre et Fréquence Paris Pluriel, je pense qu'on n'a pas appelé les auditeurs à venir, étant donné qu'on va avoir d'autres rendez-vous avec les auditeurs. Bon, plus. Parce qu'aujourd'hui, à 11h du matin dans la semaine, il y a beaucoup d'auditeurs qui sont salariés, qui n'auraient pas pu venir, et donc on va refaire quelque chose. Mais les forces aussi, c'est les forces démocratiques. Parce qu'elles sont importantes aujourd'hui. Et même, il y aura peut-être des mouvements internationaux sur ces questions, parce que le numérique n'est pas seulement un problème pour la France. Mais les forces démocratiques sont aussi avec nous, bien évidemment. Les associations, tout le secteur associatif, qui dépend beaucoup des radios associatives, est aussi derrière nous. Et ça fait beaucoup de gens. Nous, on a pu voir, quand on a eu les problèmes sur Aligre, le soutien qu'on a pu obtenir de tout un tas de personnes qu'on n'attendait pas, d'ailleurs. C'est pas simplement un clivage gauche-droite. C'est-à-dire que tous les démocrates sont interpellés. Et la disparition des radios associatives, ça serait la disparition d'un pan de la démocratie audiovisuelle.
Et vous ne trouvez pas qu'au niveau du peu radio, des radios libres et des gens qui travaillent à la radio... comme entre guillemets journalistique radio est un bon bain pour se former.
Oui. Nous on a de toute façon des stagiaires journalistes qui font constamment l'information chez nous. Samuel Etienne était stagiaire sur Aligre hein, notamment. Hein. Et c'est aussi une manière de confronter les expériences. Quand on voit que des étudiants d'école de journalisme suivent des cours, on leur dit pour voir si vous avez fait un bon journal, eh bien, écoutez une radio nationale ou commerciale après, et si votre journal est à peu près identique, vous avez fait un bon journal. On voit l'état aujourd'hui de la conception du journalisme dans ce pays. Et justement, les radios libres, les radios associatives, c'est aussi peut-être une manière nouvelle d'aborder ce travail de journalisme. Nous, on considère que l'important, c'est aussi de permettre aux gens de se poser des questions, d'interroger. On ne leur donne pas des réponses, mais le questionnement, le pouvoir de questionnement, est pour nous l'essentiel du travail de journalisme qu'on fait dans nos radios.
Je voudrais justement ajouter à ce que vous dites. Vous avez Gérard Lemaire, oui, sur votre radio, qui était le meilleur pour les revues de presse lorsqu'il était sur une autre radio que je ne veux pas nommer.
Oui, on la nommera pas.
Et on la nommera pas.
Voilà. Absolument.
Et vous lui dites bien des choses de la part de Colette, qui avait fait le comité de soutien pendant 7 mois, ici, avec lui.
D'accord. Il n'y a plus de questions.
Je vous en remercie.
Merci.